niente, tu non sali, vieni con me, passi del tempo con me, soffri, vedi seriali, vedi gli altri, ti vergogni, tutte queste cose.
Perché dobbiamo fare le cose così? Dai.
Non mi strappi il cuore così e poi torni a scopare tranquillamente a Parigi, ti assumi le tue responsabilità.
Guarda, ci guardano tutti e li facciamo fare tardi, per cui...
Tu non mi hai fatto fare tardi, eh? Dei anni della mia vita, della mia unica vita, per poi congedarmi così senza neanche prendere il tempo di niente.
Prendo parti, mesdames et messieurs.
Ah oui, mais c'est monsieur qui descend en
face. Ah non,
madame, si vous voulez vous entretenir avec monsieur.
Moi, j'ai mon billet, monsieur. Regardez, je vais à Paris.
C'est l'ambiance, il est en règle. Moi, on ne contrôle plus du cul. C'est pour ça, bien.
Cazzo dici che mi fai vergognare?
Io ti sputo addosso.
Ma che cazzo fai io? Ma che cazzo fai? Non mi vedi più!
Valeria Bruni Tedeschi est ce soir notre invitée à l'occasion de son film qui est sorti il y a quelques semaines, dont vous venez d'entendre un extrait, Les Estivants, mais aussi pour son nouveau rôle à partir du 8 mars au Théâtre de l'Odéon, dans la trilogie de la vengeance mise en scène par Simon Stone. Mais comme chaque soir, et particulièrement le lundi, et en hommage à Valeria, on va commencer la semaine avec Patti Smith. C'était une des premières fois, en tout cas pour moi, c'était la première fois, Valeria Bruni Tedeschi, que je vous découvrais au cinéma. Dans ce film magnifique signé de Noémie Lvovsky, c'était en 94. Vous dansiez sur cette musique lancinante de Patti Smith. C'était un long plan séquence qui ouvrait ce film. Vous nous donniez l'impression d'être dans un état de solitude totale. Vous pensiez à quoi à ce moment-là ?
C'était une danse à deux avec Emmanuel De Vos. Ben, c'était c'est à la fois à quoi je pensais. C'était l'amour. C'était il y a quelque chose de tragique et de très vivant en même temps. C'est les deux ensemble. C'est avoir avec la profondeur de la vie, la conscience que la vie est tragique. Et l'envie de vivre et la grande vitalité de la jeunesse. C'était ce film de Noémie, Oublie-moi.
Dans quelle langue rêvez-vous?
Parfois en français. Là, j'ai dernier rêve que j'ai fait, je crois que c'était en français. Enfin, c'était des images. Si je suis en Italie, en italien, c'est pareil pour les pensées. Ça vient dans les deux langues, selon dans quelle langue je suis baignée au moment où je rêve.
Pourquoi vos parents vous ont-ils proposé ou peut-être intimé l'ordre de partir de votre propre pays, l'Italie, pour arriver en France soudainement et brutalement?
Ah, on est venu, on est venu tous ensemble. Ils nous ont, on est parti. À l'époque, dans les années de plomb en Italie, disons, on nous avait dit que c'était parce que, à cause des Brigades Rouges, donc j'avais toute une fantaisie, un imaginaire lié aux Brigades Rouges et à toute cette lutte. Mais en fait, c'était à cause, parce que les Brigades Rouges n'enlevaient pas les enfants, donc c'était à cause de la mafia. Mais je ne sais pas pourquoi, dans mon imaginaire d'enfant, j'avais fait une confusion. Et c'était plutôt les Brigades Rouges qui allaient m'enlever. Et donc, on était partis pour se soustraire aux enlèvements. Et du coup, moi, dans ma tête, au lieu, j'aimais bien les gens qui devaient... Enfin, j'aimais bien toute cette... ces gens que je trouvais révolutionnaires. Et donc, j'avais un peu envie d'être enlevée. C'est ça que je racontais un peu dans Le Chameau, un peu cette...
Donc déjà ce fantasme, dans l'imaginaire.
Ce syndrome de Stockholm.
Déjà l'imaginaire et la porosité entre le monde réel et l'imaginaire.
Oui, c'était une façon aussi de pouvoir m'endormir avec des images, des pensées romanesques.
Ce qui est incroyable, c'est que beaucoup plus tard, dans votre vie d'adulte, Valeria Bruni Tedeschi, vous allez interpréter... un rôle dans un très beau film qui a trait aux Brigades Rouges.
Oui, c'était vraiment une chose comme un moment...
Comme un pressentiment de l'enfance qui va, hop, se traduire artistiquement des décennies plus tard.
Oui, c'est un film fondamental pour moi, une rencontre fondamentale avec Mimmo Calopresti. Et vraiment, c'était incroyable pour moi qu'on me propose le rôle d'une ex-brigatiste qui était en prison et qui rencontrait... l'homme qu'elle avait voulu, sur lequel elle avait fait un attentat. Et c'était très profond pour moi de faire ce film. Et ça a été ma façon de commencer vraiment à travailler en Italie.
Et ça a été le premier moment, je crois, où vous avez compris que peut-être, vous aussi, vous pouviez en écrire et vous n'étiez pas obligé de passer toute votre vie de l'autre côté de la caméra, mais peut-être un jour de la prendre, cette caméra. Mais ça a commencé d'abord par l'écriture.
Oui, avec Mimmo.
Et cette écriture, elle se poursuit encore aujourd'hui à travers un projet très original dans le cinéma européen, puisque c'est de votre vie dont vous parlez, mais ce n'est pas tout à fait de votre vie. Il y a toujours ce pas de côté, il y a toujours cette interprétation de l'autobiographie. Je vous propose d'écouter la voix d'Annie Ernaux, qui elle aussi, à sa manière, raconte sa vie, mais aussi la nôtre. Elle va nous expliquer comment, pour elle, il faut d'abord chercher la forme pour raconter sa vie, une vie. C'était le 7 octobre 2014.
je me situe en dehors de genre littéraire. Ça n'est pas mon souci. Mon souci premier, c'est de trouver une forme. Une forme pour ce que j'ai à dire et qui est issue de ma vie, de ce que j'ai vu, entendu, de ce que j'ai traversé, tout simplement, de mon enfance, du monde autour de moi jusqu'à maintenant, et qui continue évidemment de m'entourer, et de trouver une forme pour ça. Et qu'est-ce que ça veut dire, une forme? Eh bien, c'est très difficile de l'expliquer, mais c'est justement en dehors de tout modèle. C'est ce qui convient vraiment à ce que je ressens et qui va devenir une sorte de boule qui fait boule de neige en moi au cours des années. Et il m'arrive de laisser en jachère très longtemps un texte commencé parce que je ne sens pas que la forme convient.
Trouver la forme, ça a été aussi une de vos obsessions dès le début de ce projet cinématographique, Valéria?
Non, moi c'était beaucoup moins... Enfin, je sais pas. Non, je pense pas beaucoup à la forme. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais écrit des choses comme ça, voilà, parce que j'ai commencé à écrire un peu sur les scénarios de Mimo, et après j'ai eu envie de continuer à écrire, et j'ai tout simplement fait lire à Noémie Lvovsky, avec qui je travaillais en tant qu'actrice depuis des années, depuis même son premier court-métrage, Dis-moi oui, dis-moi non, Oublie-moi. Et je lui ai fait lire et elle m'a dit, il y a un film. Elle m'a proposé de m'aider à écrire. Et une fois qu'on a écrit le scénario, je lui ai dit, je sais pas, je suis pas une réalisatrice. Elle m'a dit, mais on s'en fout. C'est toi qui connais le plus la musique intime des scènes. Donc c'est vraiment un peu le contraire de chercher une forme. C'est toujours chercher avec elle. Et on continue encore aujourd'hui. On a tout le temps fait ça depuis. Ça fait maintenant longtemps que, à la fois, je travaille comme actrice et pour elle, et j'espère que je le referai encore. Et à la fois, elle m'aide justement à trouver mes scénarios, disons, les scénarios de mes films, mais toujours de l'intérieur, jamais de l'extérieur. Jamais par la forme.
Comme une sorte de psychanalyse, au fond.
Non, parce que c'est vraiment avec une grande, grande part d'imaginaire, d'amusement de l'imagination, de plaisir, de... la psychanalyse aussi peut être amusante et drôle, hein. D'ailleurs, je pense que quand ça fonctionne, elle est amusante. Mais avec Noémie Lvovsky et aussi avec Agnès de Sacy, c'est pour ça que j'aimais bien, une fois, on m'a parlé d'autobiographie imaginaire. J'aimais bien parce que c'est deux termes qui font une sorte de collision et qui vont pas ensemble. Parce que, en fait, et l'imaginaire, ça vient après. C'est-à-dire que l'imaginaire emporte tout et retravaille tout, réélabore toute la réalité. Et en fait, on fait ce qu'on a envie de faire. Après, on s'en fout. On prend ce qu'on a envie de prendre. Et après, on s'amuse.
Encore faut-il avoir confiance en soi. À partir de quand avez-vous eu cette confiance en vous, en tant qu'artiste, Valéria Bruni-Tedeschi?
Pour mes films, je pense que je ne suis pas sûre que j'aurais réalisé si Noémie ne m'avait pas, d'une certaine façon, donner l'autorisation. Elle m'a dit, c'est toi qui peux faire le mieux ce film-là. Donc la confiance de mon premier film est venue comme ça. Après, peu à peu, la confiance, j'ai pas tellement confiance en moi, mais j'ai confiance dans les gens qui m'entourent. J'ai comme une équipe, à la fois justement de Noémie, d'Agnès, de Anne Veil, qui est la monteuse, de... Olivier Genet, qui est le premier assistant, de gens qui m'entourent tout le temps, Caroline Deruas, qui est à la fois elle réalisatrice, mais qui m'aide, qui est aussi script sur mes films. Donc c'est une équipe et qui me donne confiance et où j'ai l'impression de qu'on est tous sur le même bateau et qu'on va pas pouvoir se perdre parce qu'on se connaît et on a des codes ensemble maintenant, on a un langage commun.
Alors, vous avez évoqué le théâtre, vous allez jouer dans un rôle d'une pièce d'un jeune metteur en scène d'origine australienne qui s'appelle Simon Stone, qui va commencer début mars au Théâtre de l'Odéon pour cette pièce intitulée « La trilogie de la violence ». On connaît Simon Stone en France depuis déjà deux adaptations qui avaient été d'ailleurs assez bouleversantes, et notamment les Trois Sœurs de Tchekhov. Tchekhov que vous avez monté, vous, avec la troupe de la Comédie Française pour en faire une émission de télévision, pas une émission, une mise en scène, un film absolument bouleversant. À partir de quand avez-vous basculé du monde du théâtre au monde du cinéma?
En fait, c'est... la frontière, elle n'est pas si nette que ça, parce qu'avec Chéreau, on a fait... pendant l'école de Patrice Chéreau et de Pierre Roman, on a fait le film Hôtel de France, qui était une adaptation de Platonov. Et ensuite, quelques mois après, on a monté Platonov. Donc, et moi, je jouais le même rôle dans le film et dans la pièce. Donc, c'était vraiment une façon de sentir que la frontière, elle n'est pas si nette que ça. Et ensuite, quand j'ai adapté Les Trois Sœurs, j'ai commencé à travailler dessus et à penser à ce projet peu après la mort de Patrice. Et c'était aussi une façon de passer là du théâtre au cinéma. Mais voilà, c'était, il n'y a pas une grande frontière au fond.
Alors, vous faites partie de cette génération bénie qui a pu faire cette fameuse école de théâtre au moment où Patrice Chéreau dirigeait le Théâtre des Amandiers de Nanterre et où il a souhaité tout de suite y adjoindre une école. Ces années-là furent intenses, effervescentes, mais aussi très douloureuses. Et Patrice Chéreau est resté un vrai compagnero dans votre vie. Vous avez beaucoup joué avec lui. Vous avez été très proche jusqu'à la toute fin de sa vie. Je vous propose d'écouter sa voix. Il va parler du lien entre le théâtre et le cinéma. C'est une archive INA du 23 mars 1993. Dont offrande vient de dire Patrice Chéreau, et Patrice Chéreau qui a mené parallèlement un itinéraire à la fois de cinéaste et aussi de metteur en scène de théâtre et d'opéra. Il parlait du répertoire contemporain. Je me souviens de vous, de votre présence sur le plateau, Valeria Bruni-Tedeschi, pour la dernière mise en scène de Patrice Chéreau. C'est un texte de Jaune Fausse, Rêve d'automne. Et j'ai l'impression que vous êtes sur son chemin. Vous ne voulez rien céder, vous voulez faire tout ce que vous avez envie de faire avec la même rage, la même fébrilité, le même enthousiasme.
Je ne sais pas si c'est le même, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il m'inspire, il me donne envie. Quand je pense à lui, j'ai envie de travailler. J'essaye à ma façon de le convoquer quand je travaille, que ce soit quand j'ai fait le co-réalisé avec Yann Corridian, le documentaire avec Thierry Niang. On avait l'impression avec Thierry, qui était son, son ami, on avait l'impression pendant le documentaire qu'il était là, Patrice. Donc pendant les trois sœurs aussi, le tournage. Enfin voilà, j'ai l'impression que je continue à travailler avec lui d'une certaine façon. Il me donne envie, aussi quand je pense à lui, dans sa façon de vouloir mélanger le travail et l'amour, le travail et la vie.
Et le corps au centre à chaque fois du matériau de travail principal, le corps, les émotions, les sensations, l'érotisme.
Oui, moi je suis peut-être l'érotisme, je suis moins, c'est plus, enfin voilà, je travaille différemment, j'en ai un peu plus peur, voilà, que lui. Mais il est là, dans Les Estivants. Je pense qu'il y a un grand éveil érotique chez tous les personnages. Mais c'est vrai que c'est plus... Je sais pas, j'ai peut-être plus peur de filmer ça que lui.
Dans le dernier film signé de vous, Valéria Brudy-Tedeschi, Les Estivants... Il y a une structure en chapitres,
oui.
Mais il y a aussi un scénario qui avance
en acte.
En acte,
comme
exactement,
théâtre.
Comme au théâtre. Mais il y a aussi un scénario qui avance, comme avance la vie en général. Elle est faite de surprises, d'étonnements, de rencontres, par essence de inattendues. Et j'ai pensé tout au long de ce film que cette structure ressemblait étonnamment à un des films de Patrice Chéreau qui s'intitule « Les gens qui m'aiment prendront le train ».
Ceux qui m'aiment, non. Oui, enfin, il y a sûrement, mais malgré moi...
Il y a
moi,
ce train de la vie.
Oui, voilà, malgré moi...
On embarque ou pas ?
J'y ai pas pensé, mais malgré moi, je suis pleine de tous les films que j'ai fait comme actrice et des films importants que j'ai fait comme actrice.
Bah, vous n'êtes pas seulement une éponge.
Aussi. Et en tout cas, par exemple, pour la scène de la gare, c'est sûr que la scène de la gare des Estivants est pleine de la scène de la gare de ceux qui m'aiment. Et d'ailleurs, aussi, Louis Garrel, qui a fait aussi une scène de gare dans son film Les Deux Amis, je pense que cette scène de gare est nourrie par ceux qui m'aiment. Enfin, les films se donnent la main les uns aux autres, et quand on aime un film, je pense que c'est comme des échos, on fait comme des échos d'un film à l'autre, d'un réalisateur à l'autre, et il n'y a pas de honte à ça.
Quelle est la part d'inconscient dans votre travail, et la censurez-vous, cette part d'inconscient ?
Non, je la censure pas, parfois je suis pas assez forte pour l'écouter, pour l'entendre, mais elle est énorme, il s'est passé une chose pour Le Chameau, par exemple, une chose incroyable, c'est que j'avais choisi comme nom de mon prénom de mon personnage Aurore, et puis il y avait quelqu'un qui m'a dit « Oh, c'est pas un bon prénom ». Et j'ai dit « Oui, c'est vrai, mais maintenant, ça fait 3 ans qu'on écrit, on va pas changer de prénom. C'est comme moi, on a... » Mais j'ai dit « Mais remarque, moi, je m'appelais Valéria, et à un moment, mon grand-père a voulu que je change de prénom à 3 ans. Et ma mère n'a pas voulu. Et il a... C'était quoi ton deuxième prénom ?» J'ai dit « Federica ». « Ah ben, c'est bien. » Et on a mis ça comme prénom pour Le Chameau. Et un jour, j'ai fait un débat, quand le film était déjà sorti. Et j'ai dit, le prénom Federica a en soi exactement le problème, le cœur du conflit intérieur du personnage. C'est une femme qui ne se sent pas le droit d'avoir la foi, tout en étant riche. Fede, ça veut dire foi, et rica, ça veut dire riche. Et ça, c'est l'inconscient.
Êtes-vous impudique ?
Oui. Je pense que j'ai du plaisir à me dévoiler, si c'est ça l'impudeur.
Pensez-vous que des images peuvent faire revenir les morts ?
Les morts reviennent pas, mais on les convoque. C'est pas revenir, c'est les convoquer. C'est pas la même chose, mais quand même, c'est une façon non seulement de parler d'eux, mais de les faire parler. C'est ça que j'ai l'impression que mon travail de faire des films me donne la possibilité de leur donner à nouveau la parole, qu'on puisse à nouveau s'engueuler. Parce que c'est ça. Quelqu'un qui meurt, c'est pas seulement c'est quelqu'un avec qui on peut plus s'engueuler. C'est ça qui est terrible.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Valeria Bruni Tedeschi pour notre plus grand bonheur, Cesaria Evora Saudad.
Otra vez camino los, es camino pasándome. Que otra vez camino los, que otra vez camino los, es camino pasándome. Saudade, 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 es mi tierra sin inclar. Saudade, 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 desde minha terra sanicla. Se vos escrevem, te escrevo. Se vos esquecem, te esquecem. Até dia que não voltar. Se vos escrevem, te escrevo. Se vos esquecem, te esquecem. Até dia que não voltar. Saudade, 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 és minha terra sanicla. Saudade, 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 és minha terra sanicla. Santo Mê. Saudade, 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 desce minha terra sanicla. Saudade, 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 desce minha terra sanicla. Se vos esquecem, te esquecer. Até dia que não voltar. Se vos escrever, te escrever. Se vos esquecem, te esquecer. Até dia que não voltar. Saudade, 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 saudade. É sim a terra.
Vous êtes souvent saudade, Valeria?
Oui, je pense, oui. Oui, ça me ouais, je reconnais quelque chose. En même temps, elle est totalement originale et unique. Elle est très, très, très profonde.
Mais parlons de ce sentiment qui a l'air de vous habiter souvent, aussi bien dans vos films que votre présence sur les plateaux de théâtre, cette espèce de mélancolie teintée d'une petite tristesse, métissée d'une très grande fragilité, comme si vous vous excusiez pratiquement d'exister, et en même temps vaillante jusqu'au bout. Ça vous vient d'où, cette espèce de tempérament ?
Je ne sais pas, c'est comme quelqu'un qui est blond ou brun ou petit ou grand. Enfin bon, voilà, c'est mon comment je suis construite, comment je suis fabriquée. Après, je pense que je suis comme ça depuis depuis toujours. À la fois, je me sens très mélancolique et à la fois, j'ai une capacité de gaieté et de joie et de. Je suis sportive aussi. Quand vous dites vaillante, je suis sportive dans même dans mon ma façon de réfléchir. J'ai une chose un peu comme ça, sportive, disciplinée aussi, et puis avec l'envie de faire des efforts. J'aime bien l'effort. Une fois, j'avais lu une chose sur la natation, sur le fait que la natation était une comparaison entre la natation et la vie, le sport de la natation, qui est vraiment comme ça, c'est plaisir de l'effort, d'avancer. J'aime bien ça. Voilà, ça a des mauvais côtés, ça, le fait que j'ai du mal à me détendre, ou quand je me détends, j'ai peur de devenir très triste. Donc voilà, j'ai toujours été comme ça.
Peut-on mourir d'amour ?
Je sais pas, mais en tout cas, on peut aller loin Oui, dans la mélancolie. Après, il y a une chose aussi que j'aime bien ne pas se prendre au sérieux. J'aime bien, et c'est ça qu'on essaye toujours de faire quand on écrit avec Noémie et Agnès, on essaye toujours de justement, de faire comme une lutte entre la mélancolie et l'arriver à faire ressortir, ressurgir ce qu'il y a de drôle dans la vie. Voilà, c'est comme un travail qu'on fait toujours pour une lutte qui est importante, parce que sinon on s'enfonce.
La famille est manifestement essentielle pour vous, dans votre structure psychique, Valeria Bruni-Tedeschi. J'en veux pour preuve vos films, où vous parlez de votre mère, vous engagez votre mère, c'est bien votre mère qui joue dans vos films. Dans le dernier film, Les Estivants, vous parlez de votre fille, c'est votre fille qu'on voit. Et pourtant, vous avez eu une histoire familiale un peu compliquée et vous avez traversé tout cela avec une sorte de franche gaieté et de défi aux lois familiales les plus habituelles, puisque vous avez deux enfants, dont cette petite fille qu'on voit dans Les Estivants. Et à un moment dans Les Estivants, il y a une scène extrêmement hilarante parce que vous êtes douée de la capacité d'autodérision, où on voit cette petite fille qui est noire, qui a la peau noire, dans une famille riche d'origine italienne. Et à un moment, un des convives de cette grande villa où se déroule votre dernier film dit à un autre, et quand on pense que c'est cette petite qui va tout hériter, et elle va hériter de tout.
Et la dame de compagnie répond, bah heureusement. Et c'est ça la grande la dame de compagnie qui a un rôle petit par rapport aux autres. Je lui dis, t'as un rôle petit, mais t'as quand même la phrase la plus importante du film. Heureusement. Heureusement que, en tout cas, je pense que dans mon film, le personnage de l'enfant, c'est vraiment ce qui donne de l'espoir au film.
Est-ce que vous jouez votre vie ou vous jouez à la vie quand vous êtes sur les plateaux du théâtre ?
Là, vous parlez théâtre.
Oui, mais je crois que pareil. C'est pareil. Oui. C'est pareil au cinéma.
Non, c'est à la fois une question de vie ou de mort. Et à la fois, vraiment une question de vie ou de mort.
Parce que souvent les artistes disent ça, on les croit pas.
Non, c'est à la fois, ça doit être à la fois, c'est un peu comme le combat dont je parlais tout à l'heure entre la mélancolie et la drôlerie. C'est à la fois une question de vie ou de mort et à la fois un jeu comme un enfant qui joue, qui construit un avion en papier. C'est-à-dire c'est à la fois rien et à la fois très 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 important. Et il faut qu'il y ait les deux en même temps. Il faut absolument sentir les deux en même temps.
Qu'est-ce qu'un visage pour vous ?
Surtout des yeux, surtout le regard, mais aussi comment la bouche, ça m'émeut, comment les gens, quand ils ont peur, ils ferment la bouche, comment ils peuvent sourire, parce que en voulant agresser, comment la bouche, ça m'émeut aussi beaucoup, et les yeux. Et aussi comment le visage change dans les années. Qu'est-ce qui s'imprime sur le visage avec ce qu'on vit. Et comment on vit ce qu'on vit. C'est-à-dire comment on traverse les épreuves.
Dans Les Estivants, il y a, dans la seconde partie de votre film, une scène absolument bouleversante où votre propre mère, qui est pianiste, et qui, en vieillissant, doit avoir de l'arthrose dans les mains, a des difficultés à faire ses gammes tous les jours, et elle joue quand même, elle joue malgré cette arthrose, et elle joue pour qui ? Pour sa petite fille.
Ouais, avec des attelles, ouais. Et il y a ce rapport comme ça entre la petite fille et la grand-mère qui est vraiment très, très, très important et que j'ai beaucoup de plaisir à voir dans le film. Même les jours où j'ai pas envie de voir mon film, ces scènes-là, j'ai du plaisir à les voir.
L'expérience de ce film que vous avez évoqué tout à l'heure rapidement avec Thierry Tionyang, une jeune fille de 90 ans, vous a-t-elle aidé à plus approcher l'humanité à l'intérieur de chacun d'entre nous ?
Je pense que ça m'a, peut-être j'oserais pas dire aussi bien que vous et d'une façon aussi importante, mais je pense que ça m'a changé dans ma façon de travailler. Ça m'a donné aussi la conscience qu'on n'est pas obligé tout le temps de diriger, de contrôler, de faire que les gens fassent, les acteurs fassent ce qu'on veut, mais qu'on peut juste les observer, parce que le documentaire était un moment où je ne faisais rien, justement, où je ne dirigeais rien, où je ne faisais que regarder.
Alors expliquez rapidement.
Bah, la grande différence que j'ai ressentie...
Vous étiez dans un service de gériatrie.
Voilà, à Ivry, à l'hôpital d'Ivry, de Charles Foy, un merveilleux service d'ailleurs. La difficulté, il y avait, c'était des malades atteints d'Alzheimer, et on a tourné pendant 6 jours avec Thierry Nyang, qui est un grand chorégraphe, qui a fait un atelier, qui devait faire de toute façon un atelier, et avec Yann Corridian et moi, on lui a demandé si on pouvait filmer l'atelier. Donc Yann a fait la deuxième caméra. Il y avait donc Thierry qui dansait, qui faisait ce stage. Et Hélène Louvard, qui était la première caméra, et François Valdiche au son. Voilà, on était 4, et on les a suivis pendant une semaine. Et au bout de 2 jours, on pensait faire un petit film de 20 minutes, 26 minutes, on a compris qu'il se passait un miracle sous nos yeux. Et il s'est passé une chose incroyable, c'est-à-dire qu'on a vu une des patientes véritablement avoir un coup de foudre et tomber amoureuse du chorégraphe. Et voilà, le film est devenu un long métrage, une histoire d'amour entre cette patiente et ce chorégraphe.
Et vous, êtes-vous tombée amoureuse de nouveau après la dure séparation que vous nous racontez dans votre dernier film, Les Estivants ?
Ça, c'est une question intime, non. Non, pas encore.
Ah, mais ça peut peut-être arriver.
Ben, j'espère, ma vie n'est pas finie. J'espère de tout mon cœur.
À l'intérieur de votre dernier film, Les Estivants, Valeria Bruni-Tedeschi, on va pas tout raconter, mais on peut simplement dire qu'il y a toujours cette sensation extrêmement ténue de l'existence et finalement un questionnement à l'intérieur de votre cinéma, mais aussi dans votre manière de pratiquer le théâtre, sur la légitimité ou pas d'être dans ce monde. Et à l'intérieur de ce film, Les Estivants, il y a un des personnages qui habite dans cette grande villa au bord de la mer qui va disparaître.
Ouais.
Tout le monde va s'émouvoir parce qu'on se dit « Oh là là, mais il s'est noyé !» Et tout le monde, évidemment, va être complètement paniqué de cette disparition terrible. Mais finalement, il va revenir. Il va revenir, il va réapprendre à être avec les autres. Mais une fois que les autres ont compris qu'il leur était revenu et qu'il était bien vivant comme les autres... Eh bien, personne ne va s'apercevoir qu'il est revenu parmi les vivants. Et ça, c'est une scène d'une force assez incroyable, parce que on a l'impression que, vivant ou pas, mort ou vivant, on ne sait plus très bien où est la différence.
Oui, le personnage est joué par Bruno Raffaelli, qui est un immense acteur de la Comédie française, qui m'a donné Les Estivants à lire, donc qui a été à la source de ce projet. Après, Les Estivants de Gorky, on s'est vraiment éloigné de la pièce de Gorky, mais quand même, c'est grâce à lui que... Et donc il joue ce personnage de Bruno, de l'ami de famille, que personne ne regarde, qui est un peu comme ça, qui est un peu oublié pendant ses vacances, qui est un peu... Et qui disparaît. Mais même avant qu'il revienne, pendant quelques heures
on
panique, pendant quelques heures en panique, déjà mon personnage, il fait un vœu, il dit qu'il préférait, il essaie de troquer à Dieu une nuit avec son amoureux et la vie de Bruno. Déjà, c'est très, vraiment, c'est très honteux. Et en plus, même avant qu'il revienne, on se remet à boire et à rire. Donc ça veut dire que, voilà, c'est une chose de vacuité de l'existence et de est-ce qu'on est remplaçable, est-ce qu'on y est remplaçable, est-ce que quand on s'en va, est-ce que vraiment on manque, c'est ça.
Ben ça, c'est toute la question de votre travail depuis très longtemps, hein, Valeria. Mmh. Alors, vous êtes d'origine italienne, je crois. Il se passe beaucoup de choses.
Je suis encore italienne. Hein.
Vous êtes encore italienne. Mmh. Il se passe beaucoup de choses dans votre propre pays. Mmh. Et je vous propose d'écouter la voix de quelqu'un qui est revenu dans son propre pays contre son gré. C'est Cesare Battisti. Il va témoigner, c'était le 5 mars 2012. Il était encore à Rio de Janeiro et comme vous le savez, il est en prison en ce moment en Italie. Écoutez Cesare Battisti.
Je ne me sens pas vraiment en prison, même si Rio, ce n'est pas moi, je suis à Rio. Je n'ai pas choisi Rio, c'est Rio qui m'a choisi. Je suis là pour des raisons de travail, pour des raisons d'amitié, de relations, pour même ma profession. Mais en tout cas, c'est une ville que j'adore, c'est une ville qui, pour moi, ça résume le Brésil entier, la nation brésilienne. Je préfère ne pas parler de l'affaire judiciaire parce que mon statut d'immigrant ne me permet pas de rentrer dans ces questions-là. J'espère seulement que l'Italie un jour aura le courage et la force pour tourner enfin la page des années de plomb.
Alors cette page n'a pas été tournée puisque cet ancien membre des prolétaires armés pour le communisme a été arrêté dans la ville de Santa Cruz en Bolivie. C'était dans la nuit de samedi 12 au 13 janvier. Il est actuellement détenu en Italie. Vous avez évoqué tout à l'heure, Valeria Bruni Tedeschi, ces années de plomb, ce temps des Brigades Rouges. Vous avez travaillé sur cette période-là. Vous l'avez vécu vous-même quand vous étiez enfant puis adolescente. Est-ce que le pardon est possible ou est-ce que il faut continuer à faire payer à ces personnes qui ont été accusées de meurtre le poids de leur criminalité jusqu'à la fin de leur vie?
Non, moi je pense que c'est très important de déjà de voir que il y a des personnes qui ont changé de vie. Il y a une dizaine d'années, on avait un petit peu parlé, voilà, on s'était occupé un peu du cas de Marina Petrella, qui était venue, qui avait été déjà accueillie en France, parce que Mitterrand a accueilli...
comme Battisti.
Voilà, donc ça, on ne peut pas oublier une parole que la France avait donnée. Je trouve que, même aux enfants, on dit, quand on donne une parole, on donne une parole, quoi. Une parole, c'est une parole. Donc c'est important. Et en plus, c'est des gens qui ont... changé complètement de vie et à l'époque Sarkozy avait fait pour empêcher qu'elle retourne en Italie. Elle était en train de mourir d'une grève de la faim. Il avait fait la seule chose qu'il pouvait faire, c'était une action de grâce et c'était juridiquement la seule chose qui allait fonctionner. Donc ça fonctionne, donc on peut le faire et donc on peut très bien prendre la décision de ne pas permettre aujourd'hui à l'Italie de poursuivre, pour quel but vraiment, parce que je pense pas que ça fasse du bien à qui que ce soit que ces gens-là meurent en prison aujourd'hui.
Dernière question, puisque le temps nous est compté, Valeria Bruni Tedeschi, depuis je crois quelques semaines vous travaillez avec Simon Stone, c'est ce petit génie venu d'Australie qui a révolutionné la mise en scène théâtrale et vous travaillez donc sur, comme il le fait d'ailleurs depuis le début, sur plusieurs matériaux. On sait qu'il va y avoir Shakespeare, mais il y aura aussi John Ford, il y aura aussi Middleton. Que se passe-t-il dans les répétitions avant la première qui est prévu normalement pour le 7 mars, 8. Le 8 mars prochain. Oui, chaque
jour de la
compte.
Femme. Bah, je sais pas bien parce que c'est pas
vous
fini.
Vous n'êtes que des femmes sur le plateau.
Il y a Eric Caravaca qui est le seul homme acteur. Et en fait, j'en sais pas bien parce que c'est pas fini d'écrire. Il écrit pendant qu'on répète, on discute, il écrit, on lit, on commence à bouger. Ça va être très très excitant et très complexe. Et on va, en fait, on s'éloigne totalement de Titus Andronicus, de des pièces du XVIe siècle anglais dont on s'est inspiré, mais c'était des pièces où les femmes étaient soit des vierges, soit des putes, soit des voilà, et comme si, et des figures, pas vraiment des personnages complexes. Il y avait beaucoup d'hommes et ces femmes qui étaient des figures de la vision de l'homme. Et nous, c'est comme si aujourd'hui, en écrivant cette pièce, en travaillant tous ensemble, on essayait de créer des personnages qui vengent les personnages de cette époque-là. Voilà pourquoi ça s'appelle la trilogie de la vengeance. C'est une façon, avec nos personnages, de venger ces personnages-là. C'est compliqué, hein, mais ça va pas être si compliqué quand je pense qu'on va voir le spectacle. Je pense que les émotions vont arriver de façon très puissante et très claire.
Vous en parlez de manière gourmande.
Oui, parce que je pense que ça va être amusant à jouer. On joue chacune 5 ou 6 personnages. Eric, il joue 2 personnages. On a
Hommes en font toujours moins que les femmes,
là,
vous voyez.
Là, dans nous, mais au XVIe siècle, non. Au XVIe siècle, ils faisaient beaucoup plus. Donc nous, on inverse le pourcentage. Et puis, on va être dans 3 décors différents, dans 3 époques différentes. Donc, on va s'amuser. Aussi, c'est ça le théâtre, c'est aussi de l'amusement.
Et puis vous allez retrouver le théâtre de l'Odéon.
Berthier.
C'est pas le même, c'est pas le même théâtre Odéon. Berthier de l'Odéon.
Mais moi, c'est la première fois, j'avais jamais joué là, à l'Odéon.
Eh bien, merci beaucoup Valéria Brodnier-Tedeschi. Je rappelle que votre nouveau film, toujours sur les écrans, parce qu'il marche bien,
oui,
et que dans cette période très difficile pour les films indépendants, où il y a 25 sorties par semaine, ouais, eh bien c'est très rude, ouais, de traverser les tsunamis
des
de
4
sorties
semaines, ouais,
et les 4 semaines. Bravo pour les estivants, c'est bientôt. Merci. D'ailleurs les Césars, vous allez y aller?
Ben non parce que ça il est sorti.
Ça sera pour l'année prochaine.
Ouais, ça sera pour l'année prochaine. Ouais.
Donc bravo pour les estivants.
Merci.
Et puis on vous attend à partir du 8 mars donc.
Merci
sur
beaucoup.
Le théâtre Berthier, au théâtre Berthier Odéon. Pour la mise en scène donc de la trilogie de la vengeance de Simon Stone.
Merci.
Et on va se quitter alors avec une chanteuse, parce qu'on a oublié de dire que toutes les bandes son de vos films sont très importantes. Je suis sûre que vous connaissez Cat Power. You forget.
so above the hunger on the streets. With your safe and your document in its place, your money, your gun, your conscience sweet like honey. Yourself to think, see where you are as you begin to sink in your mirror, in your mirror, in your mirror, in your face.
C'était In Your Face de Kate Power. Merci à Johanna Gabriel qui était à la régie technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Anne-Sophie Dazard, Élodie Royer, Antoine Joubert. Et merci évidemment à Lilian Allôme qui a réalisé cette émission.